Alors, si vous suivez l'actualité, depuis plusieurs semaines, je dirais, voire plusieurs mois même, à cause de la sécheresse, il n'y a peut-être pas la sécheresse aux Antilles, mais la France métropolitaine a soif. L'Europe a soif. Les personnes ont soif. Et quelqu'un que vous connaissez bien a dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors vous l'avez compris, il ne s'agit pas de la même eau, bien sûr. Ce sera notre sujet de méditation ce matin. Voilà cette exhortation du Nouveau Testament prononcée par Jésus lui-même dans Jean au chapitre 7 et verset 37 n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Dans l'Ancien Testament, notamment, le rocher frappé par Moïse dans le désert et dont il est sorti de l'eau vive, eh bien, représentait déjà le Seigneur Jésus-Christ. Source d'eau vive, de bénédiction spirituelle, inépuisable, offerte à quiconque véritablement a soif. Plus tard également, et c'est ce que nous allons regarder dans un instant, le prophète Ésaïe en a également parlé. Il avait à son tour personnellement expérimenté cela dans sa vie. Et c'est pourquoi il a lancé un appel absolument poignant qui jusqu'à aujourd'hui fait encore écho. Et nous pouvons peut-être l'entendre encore et j'espère que nous l'entendrons encore ce matin. Et j'aimerais qu'on lise ce passage, si nous voulons bien écouter cet appel lancé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, si vous voulez bien le prendre avec moi. Ésaïe, chapitre 55. Les trois premiers versets, ça suffira. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Voilà ce que a prophétisé Ésaïe, et il n'aurait pas pu le dire si lui-même ne l'avait pas expérimenté dans sa vie. Par la foi. Et c'est justement parce que le Fils de Dieu a acquitté lui-même le prix de la rédemption que l'eau de la vie peut être donnée gratuitement à celui qui a véritablement soif. Soif de lui. Et s'en approcher donc par la foi comme Ésaïe l'a fait, comme Moïse l'a fait, comme depuis que l'histoire de l'Église existe, des milliers, des millions de chrétiens l'ont fait. Alors, comme je le lis dans ce texte, comme il est triste de voir aujourd'hui les hommes se donner une peine absolument considérable et dépenser pour certains des dépenses, des fortunes, parfois, pour obtenir ce qui dans la vie ne rassasie pas. C'est ce que nous dit le verset 2. Et les gens continue à le faire, et continue, et continue. Et ils ne sont toujours pas rassasiés. Ce qui ne rassasie pas l'âme, ni étanche la soif. Et les gens continuent à faire tous leurs efforts, à dépenser ce qu'ils ont pour tenter de trouver ce qui, dans ce monde, pourrait rassasier et étancher leur soif. Que de temps perdu. Regardez dans quel état nous voyons notre nature aujourd'hui partir en feu. Cette terre sera bientôt détruite. Le Seigneur a des plans merveilleux pour ceux qui viennent à lui par la foi. Et aujourd'hui, celui ou celle qui ne le connaît pas, il lance un appel. Si tu as soif, alors viens à moi. Et tu n'auras plus jamais soif. Apocalypse chapitre 21, verset 6 nous dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Il n'y a plus rien à dépenser. L'eau de la vie que veut donner Jésus-Christ à celui qui a soif est une eau gratuite à prendre. Sans argent, sans prix à payer. Parce que le prix à payer, Jésus-Christ l'a fait à ma place. Et il m'appelle à venir à lui les mains vides, finalement, pour recevoir cette eau. Si, et seulement si, j'ai soif. Et nous allons regarder ça. Par simple observation, et vous aussi, vous pouvez l'observer. Les hommes continuent de vouloir s'abreuver de connaissances dans tous les domaines, que ce soit les domaines liés aux adultes, que ce soit les domaines liés aux enfants. Et c'est vrai, quand on y pense, tout l'enseignement qui est aujourd'hui, l'enseignement scolaire, par exemple, dispensé à nos enfants, dans les établissements privés ou publics, sont là pour accroître toujours plus la connaissance des uns et des autres, mais dans laquelle Dieu n'est nullement présent. Peut-être dans certains établissements privés. Et Jésus-Christ encore moins, quand on y réfléchit. Et si nous sommes chrétiens en tant que parents, pour nous, pour moi, parents, lorsque nos enfants étaient petits ou en âge scolaire, il nous faut sans cesse les éduquer ou les rééduquer, en quelque sorte, dans celui dont on sait qu'il est le seul capable d'étancher la soif même de nos enfants. Il faut parfois tout reprendre. Et puis, l'homme cherche encore et toujours, non seulement à s'abreuver de connaissances, mais aussi de reconnaissance. Pas pareil. De reconnaissance. On veut être reconnu. Parce que sinon, on pense n'être plus rien. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent être reconnus. Peut-être parmi nous ce matin. Alors il aspire à monter toujours plus haut, à être comme le monde insuffle à le faire, être dans les premiers, vous savez. C'est ce qu'on apprend aux enfants dans les écoles. Ah, fais tous tes efforts pour être le premier. Vous n'avez jamais entendu ça? Pas fais de ton mieux. Non, sois dans les premiers. Et donc... à être le plus haut possible sur les marches de l'échelle sociale quand le temps viendra pour ses enfants. Et puis, pour les adultes, il en est de même. Croyant que, finalement, la reconnaissance des autres suffit pour rendre cet homme heureux. et répondre à son besoin le plus profond qu'il ignore lui-même très souvent. Pourtant, la Bible le lui révèle. Et puis, l'homme toujours en mal d'être et jamais rassasié, c'est ce qu'on peut observer, vous pouvez l'observer aussi, hein, je n'invente rien. Cherche et cherchera encore peut-être la solution dans l'amour, dans l'amitié, l'amour de l'autre. Par exemple, en se mariant, en se faisant des amis, mais en se mariant, je pense à cette idée-là. Mais il sera rapidement déçu par l'autre qu'il croyait voir comme quelqu'un de plus parfait que lui. Vous savez, c'est souvent comme ça. Hein, on voit l'autre plus parfait que soi. Et après, dans le mariage, on découvre que les choses sont souvent autrement. Alors, oui, il se marie une première fois, et puis il se sépare. Ben oui, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand une broutille ne va plus, alors on se sépare. Et puis, pour certains d'entre eux, les plus persévérants, ils vont se dire, eh bien, on va tenter de retrouver cette relation d'amour. Alors on va se marier une deuxième fois. Et puis certains, plutôt plus prudents, vont dire non, il est préférable que l'on continue en union libre, vous savez. Alors peut-être que, pensant que le deuxième est le meilleur, alors on va se marier une deuxième fois. Et puis non, ça ne va pas. Une troisième fois. Une quatrième fois. Il y a des gens comme ça. Et même une cinquième fois. Et puis là, on en a tellement marre, mes amis, que finalement, on va se dire, s'il y a une sixième fois, non. On va rester en concubinage, en union libre. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme ça a été mon expérience au moins cinq fois avant, on pourra faire les choses plus simplement. Jérôme, pourquoi tu me racontes tout ça? Où est-ce que tu veux en venir? Mais parce que la parole de Dieu nous parle de ça. Et c'est pour ça que je voudrais vous en parler ce matin. La parole de Dieu, oui, nous parle d'une telle personne. Et vous savez de qui je vais parler? Ah. On va le redécouvrir ensemble. Et cette personne à elle seule, on pourrait dire, représente tous ceux et celles qui cherchent dans la mauvaise direction pendant des années et des années. C'est peut-être vous, hein, ce matin, je ne sais pas. Qui cherchent des solutions dans ce monde susceptible de rassasier l'âme et étancher la soif. Et finalement, on s'aperçoit que rien dans ce monde ne peut satisfaire cela. Tout ne produit que déception et tristesse. Et plus le temps passe, et plus c'est ainsi. Mes amis, la femme samaritaine était dans ce cas-là. Alors prenez avec moi dans l'évangile de Jean. Elle avait eu cinq maris. Et même le dernier n'en était pas un. Et au-delà d'une vie de désordre qu'elle a pu mener jusque-là, c'était la preuve, mes amis, d'une profonde déception de la vie, d'une profonde tristesse en elle-même. Jean chapitre 4. Et je vous invite donc à lire avec moi ce récit. Parce que cette tristesse qu'elle avait, Jésus connaissait parfaitement sa situation. Et donc, je vous invite à lire les 26 premiers versets de cet épisode poignant. Et peut-être je peux rajouter quelque chose avant de lire ce passage. Jésus va parler à cette femme. Faites en sorte, que vous vous mettiez à sa place. De telle manière que finalement Jésus me parle à moi. Verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là, je m'arrête parce qu'il y a 15 jours, on a parlé de Sichar. Plus exactement, Sichem, c'est la même ville. Vous savez, enclavée entre deux montagnes, Élab et Garizim. Élab pour la bénédiction, Garizim pour la malédiction. Et là, il arrive dans cette ville, Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Midi, il faisait très chaud, tout le monde avait soif. C'est moi qui rajoute. Il faut bien faire comprendre le contexte. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Est-ce que c'est, pour certains, la première fois qu'il lit avec moi, ensemble, ce texte ? Est-ce que faut pas avoir peur de le dire. Hein. Est-ce que c'est la première fois que vous le lisez ou que vous l'entendez ? Non ? Ça veut dire que nous tous, au moins une fois, l'avons lu, même, ou peut-être plusieurs fois. Et il y a eu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de commentaires hein, sur ce passage. J'aimerais peut-être avoir un regard un peu différent ce matin. Surtout lorsque, eh bien, on parvient, et j'aimerais qu'on fasse cet exercice, à nous mettre à la place de cette femme, comme si Jésus s'adressait à moi. Donc, on va développer quelques points ensemble, mais j'aimerais au préalable faire quelques remarques d'ordre général. La première remarque, peut-être vous l'avez observée au cours de la lecture, mais on a tellement entendu ce texte que parfois on passe très vite hein, dessus. Mais Jésus n'a pas présenté à cette femme l'évangile dans tous ses détails habituels. Vous avez remarqué ? Il n'y a pas de repentance, il n'a pas parlé de repentance, il n'a pas parlé de foi, il n'a pas dit un mot sur la croix qui devait venir, il n'a pas donc parlé de l'expiation des péchés, non, il n'a rien parlé de tout ça. Est-ce, parce que c'est toujours bien de se poser des questions, je le disais mercredi, quand on lit la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Est-ce pour autant conclure ou affirmer que ces éléments donc, ne sont pas indispensables pour faire connaître à une personne le salut qui est seul en Jésus-Christ ? Non, il faut qu'il y ait repentance, foi, amener la personne à la croix. Oui, toutes ces choses sont très utiles. Et pourtant, ici, Jésus n'en a pas prononcé un seul mot là-dessus. Et il a fini quand même par l'amener, cette femme, à la foi qui sauve. Et parce que le but du Seigneur n'était pas forcément celui que l'on poursuit, nous, parfois, quand nous voulons parler à d'autres de Christ. Ce n'était pas forcément le moment pour le Seigneur d'exposer la doctrine de l'Évangile en 3 ou 4 points, comme parfois certaines personnes l'apprennent pour transmettre l'Évangile. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, a vu les choses autrement. Bien sûr, à d'autres occasions, c'est utile de le faire. Mais là, pour cette occasion précise, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et on va essayer de regarder ça ensemble. Parce que l'approche du Seigneur Jésus est donc rempli d'une sagesse qui nous dépasse. Il veut se faire connaître à elle d'abord comme étant le Messie promis, c'est-à-dire celui qui doit régner dans le cœur, de manière à ce que cette femme le reçoive comme tel dans son cœur. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on va parler de cette femme, essayez de vous mettre à sa place. Deuxième remarque que je peux voir, je peux transparaître dans tout ce texte d'une manière globale, hein, c'est sa grande simplicité. Je suis personnellement en train de redécouvrir dans la lecture de la parole de Dieu partout, hein, sa grande simplicité. Pas tenter de chercher midi à 14h quand la parole me parle simplement, parce qu'elle s'adresse à tous. Et là, pas un seul mot compliqué à comprendre, mes amis. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a pas de théologie, là. Jésus prononce des mots simples pour toucher le cœur de cette femme et pour qu'elle réponde elle-même de la même manière, c'est-à-dire avec simplicité et sincérité, comme il veut le faire avec chacun de nous, lorsque le Seigneur Jésus me parle, s'approche de moi, m'appelle à venir à lui. Il le fait simplement, et donc répondons-lui simplement et sincèrement lorsqu'il le fait. Et puis, une autre remarque, on ne peut pas s'empêcher peut-être de se poser la question, mais pourquoi le Seigneur Jésus n'est-il pas allé au temple de Jérusalem d'abord pour se présenter à tous les Israélites comme le Messie promis ? Le Messie tant attendu par tous les Israélites. Non, la première fois qu'il se déclare être le Messie, il le fait à cette femme pécheresse et inconnue, étrangère et méprisée. C'est un exemple magnifique de la grâce de Dieu. Et donc, c'est aussi la preuve que Dieu voulait que l'évangile de Jésus soit destiné au monde entier. Ah oui, à cette femme, c'est vrai. Mais à vous, à moi, aux pauvres, aux délaissés, aux déçus de la vie, aux découragés, et pas seulement destiné au peuple d'Israël. Ah oui, plus tard, il va le faire. Il va le faire au peuple d'Israël, il va le faire à ses disciples, il va le faire à plusieurs autres. Mais cette femme samaritaine est la première à découvrir le Seigneur Jésus qui se présente à elle comme le Messie. Donc oui, le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est donc le premier enseignement qu'on peut tirer de ce passage. Et donc, est-ce que, peut-être êtes-vous chrétien, peut-être ne l'êtes-vous pas ce matin, mais est-ce que vous pouvez comprendre cela? Que si Jésus est venu chercher et sauver cette femme qui était perdue, il veut le faire aussi avec vous. Avant d'exercer son jugement, qui viendra après, bientôt d'ailleurs. Et si vous ne répondez pas ce matin à l'appel de Jésus, alors vous êtes mort dans vos péchés. Et alors, les versets 3 et 4, si vous êtes toujours avec moi sur le texte, nous transportent, mes amis, dans une autre dimension. J'aimerais qu'on regarde ça d'un peu plus près. Ça paraît étonnant ce que je dis, mais c'est la réalité. La dimension de la grâce de Dieu qui dépasse l'intelligence humaine. Parce que la grâce de Dieu, sa sagesse, ne se comprend pas par l'esprit de l'homme, mais par l'esprit de Dieu. Et regardez avec moi le verset 3. Il dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. La Judée, c'est en bas, la Galilée, c'est en haut. Et entre les deux, il y a la Samarie. Géographiquement, c'est ça. Et plus tôt, juste avant, il est dit que les chefs religieux voulaient trouver querelle à Jésus. Il lui cherchait des mouises parce qu'il ne supportait pas ce qu'il faisait. Et donc, on a tendance humainement à penser qu'il était plus prudent que Jésus s'en aille. N'est-ce pas ? par prudence, peut-être aurait même pu, il aurait pu avoir peur d'une certaine manière, qu'on aille plus loin avec lui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passages qui disaient que beaucoup cherchaient à le tuer. Et donc, je me dis, alors il quitta la Judée pour ces raisons. Et c'est tout à fait normal et légitime de le penser. Non ? Non. Il quitte la Judée parce que le moment choisi par Dieu pour rencontrer cette femme était arrivé. Le bon moment. Et on continue à se mettre à la place de cette femme. Parce que c'est comme ça que la parole de Dieu peut nous parler, mes amis. En se mettant à sa place. De la même façon, verset 4, il n'est pas passé par la Samarie parce que son trajet, du point de vue géographique, le lui imposait, puisque pour passer de la Judée en Galilée, il fallait passer par la Samarie. C'était un passage obligé. Non. Il fallait qu'il passe par là pour rencontrer cette femme. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Révélation spirituelle et non géographique, mes amis. Et de la même façon, il le fait avec nous. Et vous savez, là, on peut en conclure parce que Jésus a pris des risques incroyables. Mais l'amour ne compte pas. L'amour pour cette femme ne se calcule pas. L'amour, selon Dieu, vaut toujours le bien de l'autre, sans compter le prix à payer. Et donc, il va prendre des risques jusqu'à mettre sa vie en danger. Par amour pour cette femme qu'il veut sauver, qu'il veut délivrer. Et puis, y a une autre remarque quand même qu'on peut faire. Ce sont des déductions. Mais on peut faire ces déductions dès l'instant où on a tous les éléments qui sont là rassemblés dans le texte. Je vais vous en faire une. Il fallait que Jésus soit là à la bonne heure. Pas à midi moins le quart, ni à midi et quart, à midi. Au temps voulu par Dieu. Et vous savez pourquoi ? Parce que prendre de l'eau dans un puits ne prend que quelques minutes. Elle serait donc arrivée, aurait rempli sa cruche et repartie. Et donc Jésus n'aurait pas pu la croiser s'il était arrivé en retard ou en avance. Parce que Jésus aussi voulait certainement boire et puis après repartir sur le chemin. Et là, Jésus savait ce qui allait arriver à cette femme. Cette femme ne le savait pas. C'est ça la grâce de Dieu. Lorsqu'elle vous atteint, vous ne le savez pas par avance. Et donc, on peut se poser la question, à quel moment Jésus vous appelle, eh bien, aussi à venir à lui. Et lorsque cela se présente, la parole de Dieu nous invite à ne jamais fermer notre cœur pour recevoir sa grâce. Que l'on soit déjà chrétien, le Seigneur peut me parler, et donc laissons nos oreilles grandes ouvertes à ce moment-là. Et puis si je ne le suis pas encore, eh bien recevons-le, n'endurcissons pas notre cœur, et laissons Jésus nous parler, peut-être à travers de sa parole, peut-être à travers des messages que vous avez entendus, peut-être à travers un appel que vous auriez reçu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu et il y met tout son amour encore aujourd'hui. Premier enseignement, oui, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un deuxième enseignement qui transparaît ici, c'est que le Seigneur Jésus ne fait ni distinction, ni favoritisme. C'est elle, et pas une autre, que je veux sauver. Et pourtant, il y avait des tas de gens autour des villes. Sichar, Sichem étaient remplis de monde. Jésus est allé à ce puits avec pour but, pour objectif, d'appeler et de sauver cette femme. Et lorsque on entend la voix du Seigneur nous parler, peut-être on peut se dire, un peu comme cette femme, « Non, c'est pas possible !» Le Saint des Saints venu me parler, moi qui suis indigne. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait avec cette femme. C'est aussi la manifestation grandiose de sa grâce envers nous. Elle a aussi été très surprise, nous dit le texte, un juif de s'adresser à elle. Qui lui est adressé même la parole. Mais il fait bien plus que ça, que de lui adresser la parole. Il n'a même pas honte, on pourrait déduire cela du texte aussi. Pas honte à boire dans le même récipient qu'elle. Et là, on peut dire que le message est très fort, mes amis. Jésus franchit toutes les barrières. Pour sauver, ethnique, religieuse, sociale, morale, contrairement à nous souvent. Il n'y a rien en nous, mes amis, aussi grand que soit le péché dans nos vies, aussi grand que ce que nous sommes face à la sainteté parfaite de Dieu, qui soit hors de portée de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Rien. Avec le Seigneur, il n'y a ni juif, ni samaritain, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Et puis, un troisième enseignement qui n'est pas des moindres. On avance un peu dans la révélation que Jésus veut faire à cette femme, petit à petit. Pas à pas, on avance. Jésus appelle seulement ceux qui ont véritablement soif. Je répète, si on n'a pas bien entendu. Jésus n'appelle que ceux qui ont véritablement soif. Autrement dit, pas les autres. Quand je dis Jésus appelle, un appel efficace qui va conduire au salut de cette personne qui a soif. Ésaïe 55, on l'a lu. Vous tous qui avez soif, il ne parle pas aux autres. Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, pas l'autre. Apocalypse 21, verset 6, à celui qui a soif. Pas celui qui n'a aucun besoin. Et d'ailleurs, Jésus va dire aussi qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Ceux qui n'ont pas besoin de lui. Il est venu pour ceux qui se savent malades. Et qui demandent eh bien, la grâce de Dieu qui leur est offerte gratuitement. Et là, j'aimerais qu'on constate quelque chose de particulier dans la sagesse incroyable du Seigneur Jésus. Parce que il renverse là d'un coup la situation. Vous remarquez ? Vous avez remarqué ça ? Il a renversé totalement la situation. Inversé. Il a inversé les valeurs. Il arrive au puits de Jacob, il est exténué, il est assoiffé, et c'est elle qui possède l'eau. C'est elle qui puise de l'eau. Et qui est prête à la lui donner, cette eau. Il semble donc que, extérieurement, sachant que l'eau, c'est la vie, c'est le bonheur. C'est ce que ça représente. Il semble donc que, extérieurement, elle n'ait pas de besoin particulier, cette femme. Et mettez-vous toujours à sa place, hein. C'est un exercice continu, hein, que je vous demande de faire. Il semble donc qu'elle n'ait pas de besoin particulier parce qu'elle a cette eau. Et l'eau signifiant donc la vie dans ce monde, ça montre que finalement, en apparence, elle a tout ce qu'il lui faut. En apparence. Et peut-être, frères et sœurs, mes amis, ce matin, nous lui ressemblons. Nous sommes comme elle. Et quand on y réfléchit, ben oui. En apparence et devant les autres, nous pouvons ne pas montrer qui nous sommes. Nous pouvons ne pas montrer de besoins particuliers. Et pourtant, au fond, au très fond de notre âme, nous sommes des déçus. On n'est pas rassasiés. On est toujours assoiffés de trouver quelque chose qui va étancher ma soif. Alors, Jésus s'adresse à elle comme si c'était elle qui avait soif, et pas lui. Lui, il était homme, il avait soif, bien sûr. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur recherchait. Et donc, il s'adresse à elle qui avait soif et lui qui avait l'eau. Alors, pas la même eau, l'eau de la vie, personnifiée par le Saint-Esprit, qui va lui donner joie et paix dans la vie, une joie et une paix durable. Chose qu'elle n'avait jamais connue jusque-là. Et ça, c'est notre situation réelle. Que nous soyons enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, nous avons besoin de cette eau vive qui est le don du Seigneur Jésus pour nous. Et en plus, avec toutes les réalités qui entourent cela. Et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire la libération du péché. Dieu ne donne pas à moitié lorsqu'il donne sa grâce. Une vie nouvelle, par la demeure donc du Saint-Esprit dans le cœur, dès l'instant où par la foi, avec sincérité de cœur, je reçois cette eau vive que le Seigneur veut me donner. Pour aimer le Seigneur, nous engager à le suivre, à lui obéir et à vivre une vie qui le glorifie tout en étant rassasié. C'est formidable quand c'est comme ça. Alors, qu'elle l'ait compris ou non, parce qu'on peut déduire du texte également, qu'elle n'a pas tout compris ce que Jésus lui a dit. Et seulement après, mais à un certain moment, elle n'a pas tout compris. Qu'elle l'ait compris ou non, elle est attirée par la proposition du Seigneur. Regardez verset 15, la femme lui dit, « Mais donne-moi de cette eau !» Vous n'avez pas envie de dire la même chose ? « Donne-moi, Seigneur, de cette eau ce matin. » Moi, j'ai envie. Là, mes amis, nous sommes, je crois, au point crucial. Le plus important de cet épisode avec le Seigneur Jésus. Jésus lui offre cette eau vive. La femme samaritaine le lui demande. Donne-moi. Et Jésus va lui donner ? Pas du tout. Il ne va pas lui donner. Contre toute attente, il ne va pas lui donner. Mais le Seigneur Jésus, tout d'un coup, serait-il devenu égoïste ? Au point de promettre quelque chose et ne pas remplir, accomplir sa promesse ? Mais vous savez, on connaît tous cette situation dans la vie de tous les jours. Et le Seigneur Jésus veut nous apprendre quelque chose. À tous, à moi hein, aussi. Je me mets dedans pleinement. Lorsque à des enfants, vous leur présentez, plusieurs enfants, vous leur présentez un gâteau alléchant. Miam, miam. Alors vous demandez à ces enfants, qui en veut ? Tous les enfants vont dire, moi. Ils vont lever la main. Moi, je veux en manger. Ça a l'air tellement bon. Transposez ça dans le domaine spirituel. Nous faisons parfois, pour ne pas dire souvent, avec les enfants, la même chose quant à l'évangile. En leur disant, qui en veut ? Qui veut être sauvé ? Vous avez jamais entendu ça dans les camps ? Oui, je l'ai entendu plein de fois. Et je sais pour beaucoup qui ont répondu à cet appel, eh bien aujourd'hui ils sont loin de l'évangile. Pour ne pas dire très loin, certains. Et si des mains se lèvent, alors on est tout heureux de voir que eh bien, plusieurs d'entre eux se sont manifestés pour Jésus-Christ. Et là, on a la même situation. Ce que Jésus voulait pour cette femme, comme on voit beaucoup de ces situations aujourd'hui, ce n'était pas une fausse conversion, ce n'était pas une demi-conversion facile, qui viendrait en complément d'une vie encombrée de péchés non reconnus et non abandonnés. C'est trop facile de dire « Oui, je te reçois, oui, je suis devenu chrétien » et ma vie n'a pas changé. Le Seigneur ne donne pas cette eau à celui qui n'a pas soif. Il donne cette eau à celui qui est celui qui décèle l'authenticité de cette soif dans le cœur. Soif d'être libéré. Il a décelé chez cette femme que ce n'était pas le bon moment. Il savait qu'elle n'était pas prête à recevoir l'eau de vie qu'il lui tendait. L'eau du salut. Parce que jusque-là, elle avait caché son péché. Elle avait gardé pour elle. Elle ne lui avait pas dit. Et donc, là, le Seigneur lui dit au verset 16, « appelle ton mari. » Vous voyez, il change du tout au tout la conversation. Et on peut se dire, mais pourquoi il passe du coq à l'âne ? Ah, ça y est, vous avez compris. Et là, c'est le début pour le Seigneur d'une démarche spirituelle dont le but est de lui révéler tout ce qu'elle est en réalité, au fond d'elle-même. Et qui la condamne, chose qu'elle n'avait jamais jusque-là avouée. Et vous savez, l'empressement à confesser devant Dieu la réalité de ses péchés, c'est une manifestation, mes amis, essentielle qui caractérise une véritable soif spirituelle. Ça me rend triste ce que je suis. Le Seigneur me le révèle, ça me rend triste. Je veux en être délivré. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui a une véritable soif spirituelle. Jésus appelle seulement celui ou celle qui a véritablement cette soif spirituelle à venir à lui. Venez à moi, qui, vous, qui êtes fatigué et chargé. Pas celui qui est en pleine forme. Qui semble être en pleine forme en apparence. Mais pour lui, plus tard, ce sera la ruine éternelle. S'il ne s'humilie pas devant Dieu pour recevoir le don de la vie qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur, dans sa grâce et sa sagesse, l'a amené à cela en lui montrant qu'il était au courant de toute sa vie. Et donc, elle va lui avouer ensuite. Les choses se décantent, verset 19. « Seigneur, lui dit sa femme, je vois que tu es prophète. » Et là, elle lui avoue, effectivement, c'est sa vie. Misérable. Elle le reconnaît. Elle en a assez de ça. Sa vie de péché avait été mise à nu par le Seigneur et maintenant elle est invitée à devenir une véritable adoratrice de Dieu le Père. Elle désire que sa vie change. Elle sait que seul le Messie peut donc l'aider à mener une nouvelle vie à la gloire de Dieu. Et verset 25, elle dit je sais que le Messie doit venir. Les choses avancent dans la révélation. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses et Jésus se révèle à elle maintenant parce qu'elle est prête à recevoir, à le recevoir comme celui qui règne dans les cœurs. Avant, elle n'en était pas capable. Maintenant, elle est prête. Et on peut dire, oui, la vie de cette femme, c'est finalement notre propre cheminement. Même si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous pouvons tout à fait nous identifier à cette femme. Le Seigneur, donc, vous appelle à lui encore ce matin. À ce moment même. Pas dans une demi-heure ou dans une heure. Le Seigneur était à l'heure. C'est le moment où sa grâce vous est offerte. Si vous ne le connaissez pas, lui vous connaît parfaitement. Et ce qu'en dépit des apparences, vous avez donc besoin de sa grâce et de le connaître personnellement. Pour être libéré du poids de vos péchés, qui vous condamne et qui vous sépare du Dieu trois fois saint, qui veut pour vous la paix, la joie, une vie de quelqu'un qui n'est plus, qui est rassasié. Et puis, nous l'avons vu, Jésus ne fait pas de distinction, ni de favoritisme. Eh bien oui, c'est vous et pas un autre. Le Seigneur parle à lui, pas à moi. Non, c'est à vous que le Seigneur parle. Il vous veut pour son enfant. Et pour cela, il a payé de sa vie. Et puis enfin, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour communiquer un faux évangile. On entend aujourd'hui beaucoup de faux évangiles. Facile. Alors dans le monde, il y a une chrétienté qui augmente. On va dire, bah, c'est bien, il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde. Quel type de chrétien ? Authentique ou faux ? Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous communiquer un faux évangile, mais nous offrir l'eau vive du salut, de l'esprit vivifiant, qui transforme la vie, qui transforme le cœur, pour nous conduire à reconnaître notre misère morale et spirituelle, comme cette femme l'a fait à un moment donné de sa vie. Et aspirer à cette vie nouvelle, où d'un côté, le péché dans la vie est dompté désormais pour elle, et de l'autre, le Saint-Esprit va lui faire porter du fruit. Et ça n'a pas attendu, parce qu'elle lâche sa cruche, et elle revient dans sa ville et annonce à tout le monde que le Christ qui sauve est là. Et derrière son témoignage, plusieurs vont dire « Oui, il est le sauveur du monde ». Son témoignage a porté des fruits incroyables, parce qu'il y a une authenticité derrière. La vie de cette femme était là, elle a été communicante auprès d'autres qui se sont aussi donnés à Jésus-Christ. Incroyable. Plus besoin, comme le monde, de chercher là où tout est ruine. Regardez la France, elle brûle. Le jugement du Seigneur sera sa part à ce monde qui part à sa ruine parce qu'elle rejette le Dieu de Jésus-Christ. Viens à Jésus, toi qui as soif. J'espère que la plupart d'entre nous, peut-être, ça fait l'unanimité. Vous avez soif, qui que vous soyez. Si nous sommes déjà au Seigneur, est-ce que notre cœur a encore soif ? Je l'espère. Et si nous ne le connaissons pas encore, est-ce que nous sommes prêts à le connaître et à le recevoir comme le Seigneur de ma vie ? Alors, si vous deviez retenir une chose ce matin, retenez cela. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur, peut-être, vous qui ne le connaissez pas encore personnellement, vous convainc de péché, de justice, pour que vous veniez à lui, vous répondiez à son appel à venir à lui, vous qui avez soif. Voilà. Eh bien, je vous invite, on va prier et on va chanter un cantique ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous parle simplement, elle parle au cœur, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, partageant jointure et moelle de nos vies. Elle met le doigt sur un tas de choses qui peut-être restent à l'intérieur, non avouées, pour que, Seigneur, tu me montres, tu nous montres que nous avons besoin de toi et de ta grâce pour être délivrés de cela. Et marcher avec toi par la foi en nouveauté de vie. Donc je te prie, Seigneur, si ce matin il y a une personne qui est dans cette situation et qui ne te connaît pas personnellement, je te prie de faire cette œuvre dans son cœur, de lui montrer que tu n'es pas le juge qui jugera le monde plus tard, tu es venu pour le sauver, lui faire grâce. Et lui montrer que tu l'aimes, pour lui donner une vie nouvelle et le délivrer de ce poids qu'il avait encore sur les épaules. Donc merci, notre Dieu, de pouvoir vivre cela désormais par la foi pour nous qui sommes tes enfants. Renouvelle dans nos cœurs cette soif, Seigneur, de toujours venir à toi pour toute chose, de délaisser de plus en plus, de faire les choses par nos propres efforts, mais de te soumettre, non pas une partie de notre vie, mais toute notre vie, pour que tu la diriges, que tu la conduises, et que ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions te glorifier. Donc merci Seigneur pour ta parole ce matin, nous te bénissons, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on chante ensemble.